Sur le sujet de ce soir, je passe la parole à mon camarade pour introduire l'exposé.
Depuis une semaine, vous l'avez certainement remarqué, il est bien difficile d'échapper au battage médiatique qui entoure la Coupe du Monde de football. Quel matraquage! Il faut dire que le mondial, ce mondial, comme les précédents, est une véritable machine à fric pour les entreprises de médias, pour tous les sponsors qui misent sur les équipes comme on parie sur des chevaux de course, pour les fabricants d'articles de sport, de téléviseurs et pour tant d'autres. Pour la FIFA aussi, cette organisation mi-commerciale, mi-politique, mais où l'amour du fric l'emporte largement sur celui du ballon rond. Alors pour que cette grosse machine puisse marcher à plein régime, on a mis le paquet. On nous rabâche que c'est extraordinaire. Le mondial a lieu pour la première fois en Afrique. En fait, il s'agit surtout pour quelques multinationales de conquérir de nouveaux marchés. Quant à l'Afrique du Sud, derrière le mythe de la nation arc-en-ciel, il y a des dizaines de milliers de noirs pauvres qu'on a déplacés vers des habitats de fortune, vers des camps, pour faire place nette. Il y a aussi des petits vendeurs qu'on a chassés du pourtour des stades de foot pour seul profit des gros qui payent des royalties à la FIFA. Il y a les bidonvilles à quelques pas des stades. Les stades qui ont coûté 5 milliards de dollars, profitant certes aux industriels du bâtiment et des travaux publics, mais endettant autant un pays où le tiers de la population vit avec moins de 2 dollars par jour et qui manque non pas d'un stade rutilant, mais d'un toit, d'électricité, d'eau courante, de soins médicaux. Alors le mondial, c'est également un véritable cirque destiné à amuser les peuples du monde entier. Et en France, le gouvernement n'aurait certainement pas été mécontent que l'attention se porte sur l'équipe de France plutôt que sur ses attaques contre les retraites. Tous unis derrière les Bleus, nous a-t-on rabâché. Sans trop y croire d'ailleurs. Alors au-delà du seul football, le sport fait partie des sujets les plus discutés parmi les jeunes et les travailleurs, les hommes en tout cas. Les fédérations françaises revendiquent un total de 16 millions de licences sportives et 80% de la population déclare pratiquer un sport, au moins une fois par an. Le journal L'Équipe vend chaque jour 300 000 exemplaires. Les stades attirent chaque semaine des centaines de milliers de spectateurs et les écrans de télévision, plusieurs millions. Pour les grandes entreprises de médias, les événements sportifs sont des enjeux d'audience et donc de rentrée financière. Alors les révolutionnaires ont-ils quelque chose à en penser et à en dire? S'il s'agit de faire des pronostics sur les chances de telle ou telle équipe, sur les mérites de tel ou tel joueur ou l'intérêt de tel ou tel match, c'est bien volontiers que nous admettons notre incompétence. Le sport et surtout les résultats sportifs ne sont pas ce qui nous intéresse le plus. On nous ressasse qu'il ne faut pas mélanger le sport et la politique, mais il n'y a que les naïfs pour croire une chose pareille, car le sport c'est également de la politique, il suffit de voir l'usage nationaliste qui en est fait. Et c'est de l'économie aussi, il n'y a qu'à voir la façon dont les groupes capitalistes transforment les athlètes en hommes sandwich et font des événements sportifs de juteux fonds de commerce. Alors, le sport, c'est la santé, nous dit-on, à juste titre. Mais on ne peut pas en dire autant, bien sûr, des sportifs de haut niveau, ni du sport professionnel. Par ailleurs, les sports de masse sont devenus un des vecteurs du nationalisme, en particulier lors des grandes compétitions internationales, dont les Coupes du Monde de football ou les Jeux Olympiques. Enfin, les communistes ont-ils un avis sur le sport, sur ce qu'il devrait être ou ce qu'il pourrait être dans une société débarrassée de l'exploitation, de l'argent, des affrontements entre nations, voire de l'esprit de compétition? Alors, telles sont quelques-unes des questions dont nous voudrions parler ce soir, non pas en tant que spécialistes de sport, ce que nous ne sommes pas, vous en doutez bien, mais en tant que communistes et révolutionnaires. Alors, faute de pouvoir évoquer tous les sports ni traiter du monde entier, nous allons nous intéresser surtout aux sports les plus populaires dans quelques pays d'Europe en particulier.
Sur ce vaste sujet, nous passons la parole à Michel Bonglet.
Bien en peine de dater les origines des compétitions réalisées sur la base des efforts physiques. On connaît les Olympiades grecques, dont les différentes disciplines s'inspiraient toutes, dans une enceinte sportive, des activités militaires. On connaît aussi les Jeux du cirque, qui était pour les patriciens puis pour les empereurs romains un moyen de s'attacher la tranquillité sociale à bon compte. Le cirque et les Olympiades disparurent avec les progrès de l'Église catholique qui lutta pendant tout le Moyen-Âge contre le jeu. Pourtant, l'aristocratie développa ses propres activités physiques, comme les tournois ou la chasse, attachés à la propriété foncière, et dont elle excluait les non-propriétaires sous peine de mort. Et dans les campagnes, les jeux restèrent souvent des éléments importants de la culture pré-industrielle, par exemple les parties de soule ou de crosse où s'affrontaient des villages. Mais pour ces activités, dont les origines militaires sont évidentes, il est plus courant de parler de jeu ou de divertissement que de sport, tant les pratiques variaient d'un bout à l'autre du pays, d'une région à une autre, d'un village à un autre. Quant au sport moderne, c'est-à-dire avec des règles codifiées et standardisées, et avec des structures régionales ou nationales, les ligues ou les fédérations, ils sont nés au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. C'est-à-dire après que la révolution industrielle eut conduit à une large urbanisation, à un développement des transports, le chemin de fer en particulier, qui permettent une certaine unification des territoires nationaux et des pratiques sportives. Ce n'est pas pour rien que c'est en Grande-Bretagne, la première nation industrielle, que plusieurs des sports modernes, le football, le rugby, le cricket, l'aviron, ont été codifiés dans la forme qu'ils ont aujourd'hui encore. Dans l'esprit de leurs concepteurs, il ne s'agissait pas alors de sports destinés à être populaires. Au contraire, dans les écoles privées, où on éduquait les rejetons de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie, le but était de former des esprits sains dans des corps sains, c'est-à-dire à même d'incarner au mieux les classes dominantes, ou du moins l'image qu'elles se faisaient d'elles-mêmes. C'est par exemple dans la très élitiste école privée de rugby que furent mises au point les règles du sport du même nom. Les fondateurs des sports modernes ne voulaient surtout pas que la populace, selon leur expression, investisse leur club. Et nombre de ces clubs excluaient même explicitement les ouvriers. L'amateurisme avait précisément pour objectif de réserver le sport à ceux qui disposaient du temps nécessaire aux rencontres et aux déplacements. Cependant, un sport comme le football eut un tel succès que dès les années 1890, des équipes ouvrières battaient régulièrement les équipes bourgeoises. Qu'à cela ne tienne, la bourgeoisie délaissa le football pour se réfugier dans le tennis, le golf, ou encore les sports équestres ou alpins, les régates ou l'escrime. En effet, contrairement à une idée reçue, si le sport permet à des gens de se rassembler, il épouse en général non seulement les frontières des sexes, celles de la couleur de la peau, mais aussi celles des classes sociales. Aujourd'hui encore, les bourgeois font rarement du sport avec des ouvriers. Du club privé de golf, comme celui des Bordes en Sologne, où la cotisation peut atteindre 100 000 euros par an, à la station chic de sport d'hiver, en passant par le yachting et autres clubs de polo, les bourgeois ont toujours su trouver des moyens de pratiquer leurs loisirs entre eux. Dans d'autres pays que la Grande-Bretagne, la diffusion des sports prit des chemins un peu différents. Ainsi, en Allemagne, les associations de gymnastique étaient apparues dès le début du XIXe siècle, contre l'occupation napoléonienne, et elles avaient pour slogan « sain, pieux, joyeux et libre ». Après 1871, elles étaient devenues très conservatrices, réunifiées dans le mouvement des gymnastes allemands, contre les ennemis de l'Empire, c'est-à-dire les socialistes, les minorités ethniques et les juifs. La gymnastique fut la principale activité physique de la fin du siècle. Il s'agissait d'une gymnastique militaire, toute tournée vers les besoins de l'Empire, former une jeunesse en bonnes conditions physiques et à même de servir sous l'uniforme. Comme en France et en Angleterre, la ségrégation sociale était de mise et la plupart des clubs allemands de gymnastique refusaient tout bonnement l'adhésion d'ouvriers qui furent ainsi amenés à former leur propre club, nous y reviendrons. La vocation militaire était manifeste dans bien des sports modernes, de l'escrime au sport de combat, en passant par les tirs, les lancers, les sauts ou les courses, jusqu'aux épreuves de sport d'hiver comme le biathlon, un mélange de ski et de tir créé par des douaniers. En France, d'innombrables sociétés sportives préparait la revanche sur la défaite de 1870. La Société des carabiniers de Givors, les volontaires croix-roussiens, ou encore la Société lyonnaise de natation, qui s'entraînait pour la traversée du Rhin. Certains mouvements de jeunesse, comme les Boy Scouts, fondés par l'anglais Baden-Powell en 1907, avaient des visées impérialistes explicites. Il s'agissait, par la vie au grand air, de former la jeunesse du pays pour les futures guerres coloniales. Cela dit, le sport pouvait aussi être le vecteur du nationalisme de peuples opprimés, voire la couverture de leurs organisations de combat. Ainsi, en Irlande sous tutelle britannique, les nationalistes firent de la résistance aux sports anglais un de leurs principaux chevaux de bataille, en codifiant et en propageant des sports celtiques comme le hurling ou le football gaélique. En Bohême-Moravie, le sokol, le faucon, né en 1862, était devenu à la fin du siècle un vaste mouvement nationaliste, tchèque, de gymnastique, contre la domination de l'Empire d'Autriche-Hongrie. À Vienne, un club fondé en 1909 visait à faire la démonstration concrète dans les compétitions de la bêtise des préjugés sur la prétendue faiblesse de la race juive. Le club fournissait un service d'ordre pour protéger les lieux de prière, les réunions, et s'assurer que chacun de ses membres donnait au Front national juif et votait pour les listes sionistes. Dans l'Empire russe, les associations sportives juives s'étaient même regroupées en une fédération, le Maccabi. Le mouvement olympique, quant à lui, était directement lié à l'esprit de l'amateurisme aristocratique. Le baron Pierre de Coubertin avait été impressionné par le rôle joué par les sports dans l'éducation des gentlemen en Angleterre. Dans son esprit, le sport était destiné à former les corps sains des élites. C'est à son initiative qu'en 1896, les Jeux olympiques modernes furent organisés pour la première fois. La première caractéristique de l'olympisme, disait-il, est d'être une religion. En ciselant son corps par l'exercice, l'athlète antique honorait les dieux, l'athlète moderne fait de même, il exalte sa race, sa patrie et son drapeau. Fin de citation. Il était impossible, dans ces Jeux, pour un athlète de participer autrement que sous l'étendard d'une nation. Les cérémonies, de l'ouverture des Jeux avec les délégations nationales, à la remise des médailles avec les hymnes nationaux, étaient délibérément nationalistes et elles le sont restées. Le mouvement olympique avait d'emblée d'autres aspects réactionnaires, dont certains qu'il a gardés. Pour Coubertin, il n'était d'athlète que mâle, et il fut, toute sa vie durant, un farouche adversaire du sport féminin, même s'il dut accepter la présence de rares femmes à partir de 1900. Il était raciste et antisémite. La haute finance israélite, expliquait-il, a pris à Paris une influence beaucoup trop forte pour ne pas être dangereuse, et elle a amené, par l'absence de scrupules qui la caractérise, un abaissement du sens moral et une diffusion de pratiques corrompues. Fin de citation. Enfin, les premiers Jeux olympiques étaient explicitement des manifestations commerciales. Les Jeux de Paris en 1900, de Saint-Louis aux États-Unis en 1904, ou de Londres en 1908, étaient organisés en marge des grandes foires qu'étaient les expositions universelles. Chez les ouvriers, le sport se développa quelques décennies après son décollage dans les milieux bourgeois. Cela tenait en partie au fait que le sport est d'abord affaire de temps libre. Dans les pays industrialisés de la fin du XIXe siècle, la semaine de 6 jours et la journée de 10 heures étaient la norme, ou plutôt un minimum. Les congés payés n'existaient pas, et les jours fériés étaient peu nombreux. Cela laissait peu de temps, surtout si l'on tient compte de l'opposition de nombreuses églises au sport du dimanche. Et ce n'est qu'à travers une série de luttes que le mouvement ouvrier obtint au tournant du siècle une réduction du temps de travail. Par exemple, la semaine anglaise, c'est-à-dire avec la fin du travail le samedi à 14h, fut décisive dans l'essor du football. Quand le sport commença à se diffuser chez les ouvriers, sa propagation fut rapide, chez les hommes du moins. Un mouvement socialiste se constitua alors, avec des valeurs bien différentes de celles du sport organisé et olympique. Le Parti social-démocrate allemand, par exemple, organisait des dizaines de milliers de travailleurs autour de l'idée que l'international sera le genre humain. En France ou en Grande-Bretagne, le mouvement socialiste n'était pas aussi puissant, Mais nombre de jeunes travailleurs, férus de sport, ne voulaient pas pour autant souscrire à l'olympisme et à l'élitisme. Aussi, dans plusieurs pays, des travailleurs formèrent-ils leur propre club. Ils voulaient être une alternative socialiste à la gymnastique militaire, au nationalisme, au caractère patronal, voire religieux de nombreux clubs, au mercantilisme et à l'obsession pour les stars et les records. En France, des associations d'ouvriers et d'employés commencèrent à se former dans les sports athlétiques et dans le cyclisme. En 1907, l'Union sportive du Parti socialiste fut créée à Paris avec trois objectifs : hygiénisme, prosélytisme et récréation. L'année suivante, la Fédération sportive athlétique socialiste faisait du sport un des enjeux du combat politique. Nous voulons créer, disait-elle, à la portée de la classe ouvrière, des centres de distraction qui se développeront à côté du parti et qui seront cependant des centres de propagande et de recrutement. Il s'agissait aussi d'éloigner les jeunes des mauvaises fréquentations, c'est-à-dire de la délinquance. Lors de la Conférence nationale des jeunesses socialistes, en 1913, le rapport consacré à l'éducation de la jeunesse précisait « Il est indéniable qu'il est de toute nécessité, surtout pour les citadins, de combattre les effets pernicieux pour la santé du séjour dans les ateliers et les bureaux. Ces conditions hygiéniques défectueuses qui sévissent dans le milieu actuel rendent nécessaire un antidote. C'est l'exercice physique dans un milieu sain, dans une atmosphère moins viciée que celui de la ville. » Le Congrès recommandait la formation de clubs sportifs socialistes. « Nous avons sous les yeux, disait-il, l'exemple de plusieurs bons camarades, sportmen enragés, qui sont devenus de bons militants et qui seraient restés indifférents si le club n'était pas venu les toucher et les conquérir. Puisque l'intérêt propre du militant veut qu'il fasse de l'exercice et que la mode actuelle dans la jeunesse est au sport, profitons-en pour essayer de gagner à nous cette jeunesse. » Fin de citation. Cet investissement de force militante ne faisait pas l'unanimité. Le socialiste Cambier se moquait. « Et quand viendra le grand soir, disait-il, nous bombarderons l'ennemi à coups de ballon ? J'espère que notre prochain congrès renverra les sportsmen à leur culture physique. » Avant la Première Guerre mondiale, le succès des clubs socialistes français resta limité. En Grande-Bretagne, à partir de 1890, le journal Le Clairon faisait la promotion du cyclisme et il fut suivi par la formation de nombreux autres clubs d'ouvriers et socialistes. Ces clubs mettaient un point d'honneur à associer des femmes à leurs activités, à une époque où cela faisait l'objet de nombreuses critiques et insultes. Les clubs clairons revendiquaient, je cite, « Nous ne négligeons pas notre socialisme, les contrastes fréquents qu'un cycliste observe entre les beautés de la nature et la saleté et la misère des villes le rendent encore plus impatient d'abolir le système actuel. Faire de l'exercice sain n'est pas forcément de l'égoïsme. S'occuper de la partie sociale de notre travail militant ne signifie pas en négliger la partie plus sérieuse. Répandre la bonne camaraderie est le travail le plus important des clubs cyclistes clairons. » Ces clubs distribuaient de la littérature politique lors de leurs excursions. Ils organisaient des activités telles que le cricket, la marche, les boules, le billard, le tennis, la lecture ou l'art dramatique. Aux États-Unis aussi, le cyclisme fut un foyer de militantisme. Sur la côte Est, les rouleurs socialistes distribuaient de la littérature politique. C'est en Allemagne et en Autriche que le sport ouvrier connut ses plus grands succès. Entre 1890 et 1914, le Parti social-démocrate allemand était le parti ouvrier le plus puissant et le plus influent que le mouvement ouvrier ait connu. Il éduquait des centaines de milliers de travailleurs contre la société bourgeoise, et il était présent dans tous les domaines de la vie sociale, avec ses syndicats ou ses bourses du travail. Il avait créé une véritable contre-société, au point que Rosa Luxembourg a pu dire que ce n'était pas seulement le parti de la classe ouvrière allemande, c'était la classe ouvrière. Il s'impliqua largement dans la constitution de clubs et de fédérations. En 1893, les socialistes fondèrent l'Union gymnique des ouvriers, qui inclut ensuite les excursions, le cyclisme, la natation, la voile, l'athlétisme, l'aviron et les quilles. Les gymnastes affranchis, proclamait-il, travailleront résolument à abattre un vieux système pourri, à raser de vieilles ruines, afin que de leur gravats fleurisse une nouvelle vie. Seulement alors, dans cette nouvelle maison, pourrons-nous affirmer « Nous avons la paix, la liberté, le droit. Personne ne sera soumis à personne. » Les cyclistes ouvriers Solidarité avaient pour slogan « Être disponible et se soutenir mutuellement ». Ils rechignaient aux courses et les seules compétitions étaient des concours de lenteur où était gagnant celui qui mettait le plus de temps à franchir 100 mètres à vélo, montrant ainsi sa maîtrise de l'enjeu. Ils organisaient des excursions et des défilés cyclistes où ils jetaient des tracts aux spectateurs, à une époque où les organisations ouvrières n'avaient pas encore conquis tous les droits d'expression. Leur coopérative possédait une chaîne de boutiques, une usine de vélos et un journal bi-hebdomadaire. L'Union gymnique des ouvriers comptait en 1914 180 000 membres, auxquels s'ajoutaient autant de cyclistes ouvriers. C'était à la fois beaucoup et peu en regard des organisations bourgeoises, en raison des obstacles que le sport ouvrier rencontra tout au long de son existence. Des moyens et des équipements insuffisants, la concurrence des clubs mieux dotés, et le frein que représentait l'esprit de solidarité pour les ambitions des sportifs attirés par les compétitions. La guerre donna au sport un nouvel élan dans les classes populaires. Les États voyaient l'intérêt de l'éducation physique dans la préparation militaire. En outre, les contacts entre armées favorisèrent la diffusion des sports, comme le football en France, grâce aux soldats britanniques, dont certains jouèrent même avec des soldats allemands pendant les fraternisations de Noël 1914. L'arrivée des soldats américains en 1917 joua aussi son rôle pour le basketball, le volley, mais pas seulement. Alors qu'en France, le sport était encore marginal, il occupait déjà une place centrale dans la société américaine, dans l'éducation en particulier. Cet essor se poursuivit dans l'entre-deux-guerres. La France passa d'un million de licenciés en 1918 à 4 millions en 1939. Les compétitions internationales, qui restaient rares avant-guerre, se multipliaient. L'audience des Jeux Olympiques augmentait. En 1930, la première Coupe du monde de football fut organisée en Uruguay. Dans ce contexte d'expansion générale, le sport ouvrier progressait également. Par exemple, la Fédération allemande socialiste comptait 1 200 000 membres en 1930, celle d'Autriche 300 000, et des regroupements internationaux virent le jour. En 1920, une organisation sportive liée à la Seconde Internationale Social-Démocrate se constitua sous le nom d'Internationale Sportive de Lucerne. Elle organisa des Olympiades ouvrières à Prague en 1921, puis à Francfort en 1925. Ces réunions comprenaient des rencontres sportives, mais aussi de vastes mises en scène artistiques, des pièces politiques et des chants révolutionnaires. Malgré le réformisme des organisations qui les pilotaient, elles se différenciaient nettement des Olympiades bourgeoises. Il n'était question ni de champions à idolâtrer, ni de records à battre, mais d'une grande manifestation pacifiste dans une ambiance festive. Alors que les Jeux Olympiques bourgeois excluaient les vaincus de la guerre, les Jeux ouvriers proclamaient « plus jamais de guerre ». Les cérémonies comprenaient des drapeaux rouges et des chants révolutionnaires à la place des étendards et des hymnes nationaux. En 1925, la cérémonie de clôture se terminait par une présentation théâtrale qui mettait en scène l'effondrement du capitalisme et l'avènement du socialisme. Et de la révolution russe de 1917, une internationale communiste avait été fondée en rupture avec la social-démocratie. Lors de son troisième congrès, en 1921, une internationale rouge du sport fut constituée. Il s'agissait pour les communistes de tenir compte de l'emprise croissante du sport sur la jeunesse ouvrière. Le manifeste de cette internationale rouge du sport précisait qu'il fallait détacher les ouvriers des organisations bourgeoises et les rallier aux clubs ouvriers sportifs, en créer là où ils n'existaient pas, et les transformer en avant-garde physique du prolétariat. Dans différents pays, la cohabitation entre socialistes et communistes était impossible, comme en Allemagne, après la répression menée par le gouvernement social-démocrate contre les Spartakistes en 1919 et la mort de 3 Spartakistes, membres du plus grand club sportif ouvrier rouge de Berlin. De leur côté, les partis sociaux-démocrates exclurent de leurs Olympiades les sociétés liées au Parti communiste, car ils redoutaient la contagion. En 1928, l'Internationale rouge du sport organisa ses propres Jeux à Moscou, la Spartakiade ouvrière, à laquelle participèrent 4000 athlètes de 14 pays. L'Union soviétique avait refusé de participer aux Jeux olympiques et l'esprit de la Spartakiade s'opposait à celui du CIO. Les sportifs étaient surtout des travailleurs et les spectateurs eux-mêmes participaient en masse aux cérémonies. Les organisations sportives communistes rencontraient de nombreuses difficultés. Par exemple, en France, elles organisaient un cross de l'humanité lors de la fête annuelle du journal et un grand prix cycliste. Mais à la fin des années 20, ces épreuves furent interdites au motif qu'elles relevaient de la propagande sur la voie publique. La fédération sportive liée à l'Église catholique bénéficiait, quant à elle, de toutes les facilités. En 1931, l'Internationale rouge du sport chercha à organiser une deuxième Spartakiade à Berlin. Mais les athlètes soviétiques n'obtinrent pas de visa, puis la manifestation fut tout simplement interdite. Avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, les organisations sportives ouvrières allemandes furent bannies et leurs cadres terminèrent dans les camps nazis. De leur côté, les Jeux olympiques restaient marqués par le racisme et le sexisme de leur début. Les héritiers de Coubertin, l'aristocrate belge Henri de Baillet-Latour et le président du comité olympique américain Avery Brundage étaient ouvertement misogynes et antisémites. Lorsque les nazis parvinrent au pouvoir, une intense campagne eut lieu dans plusieurs pays, aux États-Unis en premier lieu, pour le boycott des Jeux prévus en 1936 à Berlin, c'est-à-dire dans un pays qui persécutait les militants ouvriers, les juifs, les tziganes, les handicapés, les homosexuels et tant d'autres. Les comités olympiques se mobilisèrent contre tout boycott. Depuis, le Comité international olympique s'est abrité derrière sa neutralité pour justifier cette compromission, arguant que le choix de Berlin avait été fait avant l'accession des nazis au pouvoir. Mais le CIO, qui avait rejeté la candidature de Barcelone en 1931, parce que la mobilisation ouvrière l'avait effrayé, était tout sauf neutre. Et il collabora pleinement avec le régime nazi. Les Jeux furent utilisés par Hitler comme une formidable opération de propagande. Coubertin le félicita pour la qualité de l'organisation. En renvoi d'ascenseur, Hitler proposa le baron pour le prix Nobel, sans succès, car Coubertin était quand même un peu trop réactionnaire, même pour le jury du Nobel. Les organisations sportives socialistes et communistes avaient cherché à organiser une contre-olympiade à Barcelone en juillet 1936. Pour l'Internationale rouge du sport, il n'était plus question de Spartakiade communiste, mais de jeux antifascistes, en vertu du virage vers les fronts populaires accompli 2 ans plus tôt. Des milliers d'athlètes rallièrent Barcelone, mais ces jeux furent annulés à la suite du coup d'État de Franco, qui se produisait la veille de leur ouverture. Plusieurs des sportifs qui avaient choisi d'y aller furent bannis par leur fédération nationale, tandis que les athlètes qui avaient salué Hitler à Berlin étaient traités comme des héros. De façon significative, le gouvernement de Front Populaire, dirigé par Léon Blum, saisi de la question, s'était lâchement refusé à tout boycott des Jeux de Berlin. Ce n'était pas faute de savoir le sens qu'ils avaient. Un député du Parti communiste expliquait ainsi lors du débat parlementaire, je le cite, « Aller à Berlin, c'est accepter une sorte de complicité avec les bourreaux, c'est river les fers aux pieds des victimes, et c'est couvrir les plaintes que de chanter en chœur avec un Hitler l'hymne à la gloire du sport. Des Jeux tenus sous le protectorat d'Adolf Hitler ne peuvent être qu'une grandiose manifestation servant de paravent aux préparatifs guerriers, méthodiques et minutieux de l'Allemagne nationale socialiste. » On ne saurait mieux dire. Mais le gouvernement Blum, soutenu par la SFIO et le PCF, refusa le boycott et accorda une belle subvention d'1 million de francs aux 200 Français qui se rendaient à Berlin, contre 600 000 petits francs à la délégation 6 fois plus nombreuse qui se rendait à Barcelone, à l'initiative de la Fédération sportive et gymnique du travail, socialiste et communiste. Jusque dans le domaine sportif, le gouvernement de Front Populaire se comporta avec la lâcheté qui caractérisa sa politique face à la guerre civile espagnole où il refusa de prendre parti, y compris pour ses propres amis politiques, contre l'extrême droite franquiste. Avant que l'Union soviétique ne se stalinise, elle était issue d'une révolution prolétarienne socialiste, et les bolcheviks s'étaient demandé que faire du sport. Du vivant de Marx et Engels, la question des sports modernes se posait à peine, car ils émergeaient tout juste. Marx souscrivait à l'idée, déjà mise en œuvre au début du XIXe siècle, par le socialiste utopiste Robert Owen dans une usine de New Lanark en Écosse, que l'éducation du futur devrait être équilibrée. D'abord l'éducation mentale, écrivait-il. Ensuite, l'éducation physique, comme celle qui est donnée dans les écoles de gymnastique et par des exercices militaires. Troisièmement, l'éducation technique. Marx n'a pas détaillé ses vues sur la culture physique, qu'il détestait à titre personnel. Mais il mettait l'accent sur l'équilibre à trouver entre le travail et les loisirs. Lénine, lui, pratiquait les exercices physiques et se référait également à Owen et à Marx quant au nécessaire équilibre éducatif entre le travail manuel, l'éducation physique et mentale. Mais dans la société arriérée, essentiellement rurale et à 85% illettrée qu'était la Russie, la pratique sportive n'était pas même accessible à une petite minorité comme dans les pays d'Europe occidentale. Et les bolcheviks étaient très pragmatiques sur la façon dont il fallait s'y prendre pour essayer de modifier la vie sociale. Pendant la guerre civile de 1918 à 1921, l'État rendit obligatoire le sport militaire, athlétisme, gymnastique, natation, escrime, patinage, ski et sport d'équipe. Mais ce n'était pas la seule fonction que les bolcheviks attribuaient au sport. Lénine, pour qui le sport pouvait jouer un grand rôle dans la formation du caractère, dans les comportements en société, écrivait, je le cite, « Nous devons développer les capacités du peuple, débusquer ses talents, qui sont une ressource inexploitée que le capitalisme a réprimée. » Les bolcheviks inclurent l'éducation physique obligatoire dans le système éducatif unifié que créa la Russie soviétique. Le sport était aussi un élément dans la politique de santé publique inexistante sous le tsarisme, et que les bolcheviks créent à partir de rien, par exemple contre le tabagisme ou l'alcoolisme. « Mon but n'est pas de faire tomber des records », expliquait le médecin Nikolaï Semachko, commissaire du peuple à la santé, « mais d'apporter l'hygiène sociale aux populations arriérées. » Le sport s'inscrivait ainsi dans un même combat contre l'alcoolisme, le rachitisme ou l'illettrisme. Il ne s'agissait pas de fabriquer une élite sportive soutenue par tous, mais d'élever la condition physique, le niveau d'hygiène et de santé de toute la population. Lénine voyait dans le sport un moyen de favoriser le bien-être. Par ailleurs, dans une société marquée par l'oppression des femmes, les bolcheviks jugeaient également que le sport pouvait jouer un rôle émancipateur. « Il est de notre devoir urgent, disait-il, d'entraîner les femmes à faire du sport. Si nous parvenons à faire cela et leur faire faire un plein usage du soleil, de l'eau et de la vie, et de l'air pur pour se fortifier, nous apporterons une révolution complète dans le mode de vie en Russie. » Fin de citation. Amener les femmes à pratiquer publiquement des activités sportives, notamment dans les régions où la vie sociale était sous la férule des religieux, permettrait de faire la démonstration rapide qu'elles étaient les égales des hommes. Enfin, les bolcheviks cherchèrent à utiliser le sport comme un moyen d'intégrer les différentes nationalités du nouvel État, auparavant opprimé dans cette prison des peuples qu'était l'Empire tsariste. En octobre 1920, ils organisèrent ainsi les Jeux d'Asie centrale à Tashkent, en Ouzbékistan. 3000 Ouzbeks, Kazakhs, Turkmènes, Tadjiks, Kirghizes, Russes et Ukrainiens se confrontaient pour la première fois dans les épreuves sportives. Les bolcheviks encouragèrent la naissance de disciplines soviétiques, comme le sambo, une sorte de judo, mais utilisèrent aussi des sports occidentaux, comme le football, comme vecteur d'intégration nationale. La question de la mise en œuvre de cette politique sportive vit les hygiénistes s'opposer aux prolètes cultistes, les partisans de la culture prolétarienne. Pour les hygiénistes, souvent liés aux milieux médicaux, la culture physique œuvrait à la santé publique. Ils étaient opposés aux sports de compétition et à la poursuite des records. Le sport, expliquait Kalinine, le chef de l'État, est une affaire secondaire et ne devrait jamais devenir une fin en soi, une recherche du record. Les sports doivent être subordonnés aux tâches de l'éducation communiste. Après tout, nous ne préparons pas des sportifs étroits, mais des citoyens communistes qui doivent d'abord posséder une vision politique large et des capacités d'organisation, tout autant que des bras forts et un bon système digestif. Cependant, certains hygiénistes n'étaient pas opposés à tous les jeux compétitifs. Semachko, le commissaire du peuple à la santé, expliquait que sans compétition, la culture physique, réduite à, disait-il, de la semoule au lait, ne serait jamais très populaire. Il voyait dans le sport de compétition un moyen d'entraîner de larges masses vers la culture physique. Les prolétultistes, eux, les partisans de la culture prolétarienne, s'opposaient à tous les sports organisés et à toute compétition. Par exemple, si un hygiéniste expliquait que le tennis sur gazon était bon du point de vue biologique, un prolétcultiste le rejetait comme un sport bourgeois, sans esprit d'équipe ou de camaraderie. Les prolétcultistes étaient partisans d'événements physiques collectifs, comme celui qu'ils organisaient en 1924, avec 6000 participants près de Moscou, intitulé « L'Inde, les Britanniques et les Rouges », où les Rouges, dirigés par Trotsky, aidaient les Indiens à s'émanciper de la tutelle britannique. Les prolétcultistes prenaient aussi des mouvements de travail, de la gymnastique de production et des exercices régénérateurs. Mais ces exercices tendaient plus à éloigner les gens du sport, les plus jeunes en particulier. Et Lénine prit parti contre les prolétcultistes. Ce qui comptait, disait-il, n'était pas l'invention d'une nouvelle culture prolétarienne, mais le développement des meilleures formes, traditions et résultats de la culture existante d'un point de vue socialiste. D'autres bolcheviques expliquaient qu'il n'y a pas de sport bourgeois ni de sport ouvrier. Les partisans de la culture prolétarienne furent ainsi mis en minorité, même si certaines de leurs idées, comme la gymnastique de production, furent mises en œuvre à grande échelle à partir de 1928. Quant aux hygiénistes, ils furent réduits au silence au milieu des années 20, car certains de leurs animateurs étaient liés à Trotsky. Mais les uns et les autres, qui périrent dans les purges staliniennes, avaient réfléchi à la façon dont le sport pouvait être mis en œuvre en le débarrassant de toutes les tares qui lui étaient attachées dans la société bourgeoise. L'URSS de Staline devait renoncer à cela comme à tant d'autres apports de la Révolution russe. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la diffusion du sport à des couches de plus en plus larges des sociétés occidentales s'est poursuivie. La retransmission des événements sportifs a cru encore plus rapidement. Avec la télévision, à partir de la fin des années 60, l'audience des grandes compétitions comme les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde de football est devenue réellement mondiale, avec des dizaines, des centaines de millions, puis des milliards de téléspectateurs. Le sport était déjà politique à ses débuts, il n'a pas cessé de l'être. L'usage nationaliste et guerrier que Mussolini et Hitler avaient fait du sport dans l'entre-deux-guerres s'est en quelque sorte généralisé. Politiciens et chefs de gouvernement se sont bousculés dans les stades pour soutenir leurs équipes nationales, espérant ainsi souder leur population autour d'eux. Les pires dictateurs ont ainsi cherché à tirer le meilleur parti des jeux du stade. Les dirigeants des deux blocs utilisaient le sport à des fins de propagande pendant la guerre froide. L'URSS s'est ainsi de moins en moins différenciée des régimes capitalistes dans sa conception du sport. En 1951, elle a rejoint le CIO, qu'elle avait boycotté jusqu'alors, et a désormais participé aux Jeux Olympiques. Diffusant la pratique sportive, elle a cherché à détecter dès leur plus jeune âge les futurs sportifs de haut niveau, les plaçant dans des usines à champions, et les intégrant ensuite aux couches privilégiées du régime. Les sportifs soviétiques réalisaient certes des exploits dans les compétitions internationales, fût-ce au prix d'un dopage à grande échelle, nous y reviendrons. Tous les États ont cherché à utiliser le sport à des fins de propagande. Malgré les appels au boycott, le régime sud-africain d'apartheid parvint, grâce à la complaisance des pays riches, à organiser un Grand Prix automobile de Formule 1 de 1967 à 1985. Le régime mexicain put accueillir les Jeux Olympiques de 1968 deux semaines seulement après avoir massacré 300 manifestants, place des Trois Cultures. En 1969, une guerre du foot se produisit entre le Honduras et le Salvador. De part et d'autre, les gouvernements exacerbaient les tensions entre les deux pays sur un contentieux frontalier. Après la défaite à domicile de l'équipe salvadorienne, des supporters honduriens furent battus. Ce prétexte suffit au déclenchement d'une guerre qui durera 4 jours, fit 6 000 morts et où 50 000 personnes perdirent leur maison et leur terre. La frontière resta inchangée. En 1978, la dictature militaire argentine trouva dans l'organisation de la Coupe du Monde de football une belle occasion de redorer son blason. Un mouvement pour le boycott eut lieu dans plusieurs pays, sans succès. Selon le président de la FIFA, le Brésilien João Havelange, je le cite, « Les problèmes économiques, politiques et sociaux devraient être oubliés le temps du tournoi pour faire place à la joie et au plaisir. » Il reçut une décoration militaire du chef de la junte argentine et il félicita le régime pour l'efficace et triomphale organisation de la compétition, tandis que le régime torturait et assassinait ses opposants à quelques centaines de mètres des stades. En fait, le CIO et la FIFA ont toujours été solidaires de l'usage politique fait par les puissants des compétitions internationales, même quand cet usage était colonisateur ou ségrégationniste. Tout comme les vaincus de la Première Guerre mondiale avaient été écartés des Jeux de 1920 et 1924, l'Allemagne et le Japon furent exclus des Jeux de 1948. Le CIO ne boycotta l'Afrique du Sud de l'apartheid qu'à partir de 1962, après que l'ONU eut demandé à ses membres de rompre leurs relations avec ce régime. En 1958, en pleine guerre d'indépendance algérienne, le FLN constituait une équipe nationale à partir de joueurs qui évoluaient en métropole. Ils quittèrent clandestinement la France et les clubs qui les employaient, se rendirent à Tunis et constituèrent une sélection algérienne qui disputa de nombreuses rencontres avec les pays qui l'acceptaient, c'est-à-dire seulement ceux du bloc soviétique et la Chine. En effet, non seulement la FIFA n'admettait pas l'Algérie aux compétitions internationales, mais elle menaçait de sanctions les nations qui acceptaient de la rencontrer. Vu la nature des Jeux Olympiques modernes, ils ont été l'écho de toutes les luttes sociales et politiques marquantes de la planète, des guerres aussi, et ils ont été l'objet de différents boycotts. En 1956, l'Espagne de Franco, les Pays-Bas et la Suisse boycottèrent les Jeux pour protester contre l'invasion soviétique de la Hongrie, tandis que l'Égypte, l'Irak et le Liban refusèrent de concourir en raison de l'occupation du canal de Suez. La République populaire de Chine ne participa pas aux Jeux de 58 à 80. En 72, les Jeux de Munich furent marqués par la prise en otage d'athlètes israéliens par un commando palestinien qui réclamait la libération de prisonniers. Les dirigeants israéliens refusèrent de négocier, la police allemande intervint et ce fut un massacre. En 76, 28 pays africains boycottèrent les Jeux de Montréal pour protester contre la participation de la Nouvelle-Zélande qui avait disputé avec l'Afrique du Sud de l'apartheid un match de rugby. En 80, les États-Unis et une cinquantaine de nations boycottèrent les Jeux de Moscou pour protester contre l'intervention soviétique en Afghanistan, ce à quoi les pays du bloc soviétique répliquèrent en boycottant les Jeux de Los Angeles en 1984. Autant dire que l'olympisme, comme le dit la charte olympique, créateur d'un style de vie fondé sur la joie dans l'effort, la valeur éducative du bon exemple et le respect des principes éthiques fondamentaux universels, fin de citation, est une fable qu'on raconte aux enfants, mais à laquelle ne croient guère tous ceux qui les organisent ou qui en profitent. On sait qu'en Afrique du Sud, l'apartheid raciste était particulièrement manifeste dans le sport. Mais ce pays n'a pas eu le monopole de la ségrégation. Miroir de la société capitaliste, le sport fut longtemps un des principaux lieux de l'expression du racisme, et il l'est toujours dans une certaine mesure. À leur début, les grandes compétitions sportives écartaient tout simplement ceux qui n'étaient pas blancs, les fondeurs du mouvement olympique étant des racistes notoires. En 1904, les Jeux se tinrent à Saint-Louis, aux États-Unis. C'était l'époque non seulement de la ségrégation, mais aussi du lynchage. Les Noirs ne furent pas admis aux compétitions avec les Blancs, mais purent concourir aux côtés de Chinois, de Philippins, de Turcs, de Métis mexicains, d'Esquimaux et d'Indiens, dans deux journées dites anthropologiques, où ils étaient en fait exhibés afin d'illustrer la supériorité des Blancs. À la même époque, Jack Johnson, fils d'un ancien esclave, était de loin le meilleur boxeur poids lourd, mais on lui refusait tout combat avec les champions blancs. Tout au plus, fut-il sacré pendant plusieurs années, champion du monde des hommes de couleur, un titre qui existait à l'époque. Ce n'est qu'en 1908, alors qu'il avait déjà 30 ans, qu'il parvint à rencontrer le champion blanc. Le combat eut lieu à Sydney, en Australie, et Johnson écrasa son adversaire devant 20 000 blancs qui hurlaient des insultes racistes. Deux ans plus tard, l'ancien champion invaincu blanc, James Jeffries, accepta de sortir de sa retraite en déclarant « Je me sens obligé de remonter sur le ring pour démontrer que l'homme blanc est le roi. » Il fut battu par Johnson, ce qui provoqua des émeutes anti-noires dans tous les États-Unis, tuant 151 personnes. Johnson resta champion pendant des années, mais la bourgeoisie blanche ne lui pardonna pas d'avoir emporté ce titre symbolique. Il fut condamné pour une affaire de mœurs et il dut s'exiler. Le sport américain restait profondément marqué par la ségrégation. En 1932, alors que les Jeux de Los Angeles ne comptaient que 4 Noirs, le Parti communiste américain organisait à Chicago des contre-Jeux olympiques sans ségrégation. Les Noirs parvenaient à s'imposer dans plusieurs sports, comme la boxe. À Berlin, en 1936, quand le sprinter noir Jesse Owens emporta 4 titres olympiques, Hitler quitta sa loge et refusa de le saluer. Mais le président Roosevelt ne lui adressa pas un mot de félicitations non plus. Quand en 1936, le boxeur noir Joe Louis fut battu par l'Allemand Schmeling, qu'Hitler présentait comme l'incarnation de la grandeur aryenne, les journaux du sud des États-Unis se félicitaient encore de la supériorité de la race blanche. Quand en 1938, 2 ans plus tard, Louis prit sa revanche, des millions de Noirs américains célébrèrent sa victoire. Cependant, même après la Seconde Guerre mondiale, nombre de ligues, comme le baseball ou le football américain, restaient fermées aux Noirs. Dans les années 60, alors que partout les Noirs américains se révoltaient contre la ségrégation qui prévalait depuis l'abolition de l'esclavage, plusieurs champions noirs utilisaient leur statut pour porter cette révolte dans les enceintes sportives. C'était le cas de Cassius Clay, champion du monde de boxe poids lourd à partir de 1962, héros américain jusqu'à ce qu'il rejoigne les nationalistes noirs de la nation de l'islam et devienne Mohamed Ali en 1964. Appelé sous les drapeaux, il refusa d'aller combattre au Vietnam, ce qui lui valut plusieurs procès et le retrait de sa licence, le privant du coup pendant plusieurs années de son titre de champion du monde. À Mexico, en 1968, les sprinteurs Tommy Smith et John Carlos ont également incarné cette révolte des Noirs. Les meilleurs au monde sur leur distance, ils étaient partie prenante d'un mouvement qui avait d'abord envisagé de boycotter les Jeux de Mexico avant d'y renoncer. Respectivement premier et troisième du 200 mètres, ils utilisèrent le podium non pour célébrer leur nation, comme le prévoit le protocole des Jeux, mais pour dénoncer le sort qu'elle réservait aux Noirs. Les pieds non chaussés, pour symboliser la pauvreté des leurs. Un collier au cou, en souvenir du lynchage. Se partageant une paire de gants noirs, le poing levé en symbole du pouvoir et de l'unité des Noirs, et la tête baissée. Pendant les quelques minutes de cette cérémonie vue dans le monde entier, Tommy Smith redoutait simplement d'être assassiné, comme l'étaient aux États-Unis tant de Noirs révoltés. Dès le lendemain, le CIO les expulsa du village olympique. Leurs contrats et promesses d'emploi s'annulèrent un à un. Insultes, menaces de mort, attaques contre leur famille, traque du FBI. La bourgeoisie américaine leur fit chèrement payer leurs gestes. Et même le troisième homme sur la photo, l'Australien Peter Norman, qui portait un badge pour les droits civiques en solidarité avec leurs gestes et s'opposait à la politique de l'État australien à l'égard des aborigènes, fut traité comme un paria par le mouvement olympique et les médias de son pays. Quelques jours après le 200 mètres de 1968, les médaillés du 400 mètres et ceux du relais 4x400, noirs américains eux aussi, Lee Evans, Larry James, Vincent Matthews et Ron Freeman, se présentaient sur la pelouse, coiffés du béret des Panthères noirs. Et cette fois-ci, le CIO recula devant les sanctions. Aujourd'hui encore, l'idée que les différentes races humaines n'ont pas les mêmes capacités sportives est un préjugé répandu. Par exemple, les Noirs seraient de bons sportifs. Ou bien, il y aurait trop de Noirs en équipe de France. C'est logiquement Jean-Marie Le Pen qui l'avait dit le premier. Mais il n'a pas le monopole de la bêtise raciste. En 2005, Alain Finkielkraut, philosophe de son état, animateur d'une émission sur France Culture, décrivait avec mépris une équipe, je le cite, « black, black, black ». Et en 2006, le président PS de la région Languedoc-Roussillon, Georges Defraîche, s'était aussi signalé par sa finesse d'esprit, en se plaignant que dans l'équipe de France, il y a 9 blacks sur 11, en ajoutant « j'ai honte pour ce pays ». Le vieux préjugé qui perce derrière ces remarques servit jadis à justifier la ségrégation. Aux États-Unis, disait-on à une époque, les Noirs sont physiquement supérieurs et à même de travailler dur, tandis que les Blancs sont plus intelligents et à même de les diriger. Y a-t-il des différences physiques entre Noirs et Blancs? Tous les scientifiques savent que le regroupement des êtres humains sur la base de la couleur de peau est très superficiel. Il y a autant de différences et de similitudes biologiques entre deux individus de la même couleur de peau qu'entre des hommes de couleurs différentes. Et pour revenir à l'équipe de France, nombre de ces joueurs ont surtout en commun d'être issus de l'immigration antillaise et africaine, dans un pays où les immigrés ont constitué, depuis un siècle, une bonne partie des classes populaires. Dans les années 50, l'équipe de France comptait des joueurs d'origine polonaise, italienne, ukrainienne, espagnole, algérienne ou yougoslave. Si les Noirs fournissent aux États-Unis l'essentiel des professionnels de basketball, ce n'est pas parce qu'ils ont des capacités particulières, mais parce qu'ils constituent une bonne partie de la classe ouvrière de leur pays, où le basket est un sport pratiqué dans les quartiers populaires. Quand, dans les années 1930-1940, la classe ouvrière new-yorkaise était essentiellement composée de juifs et d'italiens, les meilleurs basketteurs l'étaient aussi, donnant lieu aux mêmes arguments sur leur morphologie avantageuse que ceux qu'on entend aujourd'hui sur les Noirs. En fait, qui pratique tel sport et à quel niveau dépend d'abord de l'origine géographique. Sans surprise, les Alpes comptent plus de bons skieurs que la Bretagne. La pratique sportive dépend aussi beaucoup des traditions nationales et de la politique des États, ce qui explique par exemple les succès jamaïcains en sprint, brésiliens en football, pakistanais en cricket ou en badminton, ou encore japonais en judo ou en sumo. Et elle dépend aussi beaucoup de la classe sociale, et tout laisse à penser que pendant longtemps encore, les champions de golf ou de polo se recruteront plus dans la bourgeoisie que ceux de boxe, de football ou de cyclisme. Tout comme le sport a longtemps été un foyer de racisme, et le demeure souvent, il n'y a qu'à voir le comportement de nombreux joueurs et supporters dans les stades de football européens, il a aussi été un bastion sexiste, et ce n'est pas terminé, y compris dans les pays qui se targuent d'émancipation des femmes. À la fin du XIXe siècle, la femme au foyer était pratiquement placée dans l'impossibilité de pratiquer un sport. Elle était assignée au travail ménager et s'absenter de son foyer pour des activités culturelles ou sportives était conçue comme une quasi-désertion. Le sport était un rival du mari. De plus, la double journée de travail féminin laissait peu de temps pour pratiquer un sport. D'innombrables arguments médicaux ont longtemps été avancés pour justifier l'infériorité de la femme sur l'homme. Sa morphologie, ses capacités, le poids de sa musculature, et j'en passe. Pendant des décennies, le discours médical a ainsi insisté non seulement sur la supériorité physique des hommes, mais aussi sur l'incapacité des femmes à de nombreuses activités sportives. Le docteur Éric Cour expliquait par exemple en 1900, je le cite, « De par son anatomie spéciale, la femme est incapable des efforts que comporte tout sport. Il semble oiseux d'insister sur ce point qu'un sport n'est point un jeu de femme. » Le directeur du journal Lotto jugeait lui en 1904 que « Il n'est point d'être plus odieux que ce qu'on appelle la femme sportive, qui ne trouve plus le temps de donner à téter à son gosse, et pas davantage celui de songer aux soins de son intérieur et à la décence de sa tenue. » Le cyclisme féminin était alors jugé pervers, sauf à être pratiqué en robe longue et en corps. Et la culotte cycliste était carrément scandaleuse. En 1922 encore, le docteur Boisget, une autorité, affirmait de façon définitive que la compétition sportive est dangereuse pour la femme, car, je le cite, tout exercice qui s'accompagne de heurts, de chocs et de secousses est dangereux pour l'organe utérin. Et il concluait, selon une formule reprise tant dans les textes officiels que dans la presse médicale ou sportive, la femme n'est point faite pour lutter, mais pour procréer. Pourtant, dès la fin du XIXe siècle, des femmes investissaient les sports qui leur étaient accessibles, quand les obligations vestimentaires ne constituaient pas un handicap trop important. Alors que des femmes se battaient dans de nombreux pays pour des droits égaux aux hommes, le mouvement ouvrier, les féministes aussi, ont vite cherché à diffuser la pratique sportive auprès des femmes et à faire ainsi du sport un facteur d'émancipation. Ce fut le cas des socialistes avant la Première Guerre mondiale, ce fut également celui du mouvement communiste. En revanche, les institutions sportives ont joué un rôle particulièrement réactionnaire. Ce fut une évidence pour le mouvement olympique, qui n'a admis les femmes que progressivement et sous la pression de la société. Jusqu'à sa mort en 1937, Coubertin est resté hostile à leur participation, fustigeant, disait-il, les Olympiades femelles, inintéressantes, inesthétiques et incorrectes. Coubertin n'admettait la présence féminine qu'à un titre, comme aux anciens tournois, celui de couronner les vainqueurs. Même pour les milieux bourgeois de son époque, Aubin était rétrograde, et quelques disciplines olympiques n'avaient fini finalement à courir de rares femmes. Mais l'athlétisme olympique ne fut ouvert aux femmes qu'en 1928, le cyclisme qu'en 1984, le football qu'en 1996, tandis que d'autres sports sont toujours exclusivement masculins. Dans certaines épreuves olympiques, les femmes ont obtenu la mixité, mais à condition de perdre. Ainsi, aux Jeux de 1992, en skeet, c'est un tir, une Chinoise, Shang San, seule femme finaliste, battit les 7 hommes. Du coup, le CIO interdit le skeet aux femmes en 1996. Il le rétablit en 2000, mais dans une épreuve séparée des hommes. Le CIO a lui-même été entièrement masculin jusqu'en 1981. Aujourd'hui encore, il ne compte que 14 femmes sur 113 membres et sa direction, une sur 14. On est loin de la parité. Plus généralement, quasiment tous les sports ont longtemps été fermés aux femmes et aujourd'hui encore, nombre d'entre eux leur sont interdits dans de nombreux pays. Même dans les pays riches qui se targuent de respecter l'égalité hommes-femmes, combien de femmes compte-t-on dans les dirigeants des mouvements sportifs qui en détermine le fonctionnement. En France, alors que cela fait près de 40 ans que l'égalité homme-femme est inscrite dans la loi, il a fallu attendre 2008 pour que le tournoi de tennis de Roland-Garros accorde des primes égales aux femmes et aux hommes. Et là aussi, les préjugés sont plus souvent venus de ceux qui se targuent de donner l'exemple. On peut par exemple le lire sous la plume de David Douillet, ancien champion de judo et actuel député UMP, dans un livre qu'il avait modestement intitulé « L'âme du conquérant ». Je le cite. « On dit que je suis misogyne, mais tous les hommes le sont, sauf les tapettes. Pour moi, je poursuis. Pour moi, une femme qui se bat au judo ou dans une autre discipline, ce n'est pas quelque chose de naturel, de valorisant. Si Dieu a donné le don de procréation aux femmes, ce n'est pas par hasard. » Précisons que David Douillet est aujourd'hui membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale. Et j'épargnerai aux camarades des citations éclairées du commentateur de football Thierry Roy. En fait, sport après sport, discipline après discipline, les femmes ont montré que leur infériorité n'était pas tant physique que sociale, construite par la société des hommes. Aujourd'hui, les nageuses Laure Manoldou, l'italienne Federica Pellegrini, laissent derrière elles 99,99% des hommes. Elles ont égalé, voire battu les records de Mark Spitz, qu'on disait en 1972 être le plus grand nageur de tous les temps. Et elles auraient distancé d'une bonne longueur Johnny Westmiller, champion de natation des années 20 et Tarzan pour le cinéma. Et on pourrait multiplier les comparaisons en cyclisme, en course ou en lancer. Et pourtant, aujourd'hui encore, les femmes doivent souvent se battre pour faire valoir leur droit à faire du sport. Dans certains pays, Elles doivent lutter contre des régimes qui, par obscurantisme religieux, veulent les empêcher de porter des tenues sportives. Mais même dans les pays occidentaux, elles doivent surmonter tout un tas d'obstacles. L'absence de mixité des pratiques sportives, la résistance de certains sports à la pratique des femmes, mais aussi les inégalités de salaire, la précarité, les tâches domestiques et la double journée de travail, qui constituent autant de freins à la pratique sportive comme à tant d'autres centres d'intérêts sociaux.
Bien, nous allons faire une pause de 15 minutes. Donc, je vous demande de revenir vous asseoir pour la suite de l'exposé à 10h05. Voilà, et on vous demande aussi, pour ceux qui quittent leur place, pour des raisons de sécurité, d'emporter toutes leurs affaires avec eux.